Ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de Jacques. J'aimerais qu'on puisse creuser dans Jacques au chapitre 2, dans les premiers versets. Et si j'avais un titre à donner aujourd'hui, ça serait « Une foi authentique en Dieu se traduit par des vies véritablement transformées ». Et pour moi, le mot-clé cette année, avec la naissance d'Ézéchiel, merci, avec la naissance d'Ézéchiel et qu'est-ce que je vis cette année, le mot-clé, c'est vraiment authenticité. Que ça soit de l'authenticité dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, avec mes enfants, dans mon ministère, avec ma relation avec Dieu, mais l'authenticité. On a été malheureusement conditionnés davantage et davantage à garder ça caché à l'intérieur, à avoir peur d'être authentique avec les gens. Frères et sœurs, Dieu est authentique au travers de sa parole, puis c'est ça la beauté de Dieu. Il est très clair, net et précis, mais d'une manière si divine et si gracieuse. On va lire notre texte, puis après ça, on va prier, puis rentrer dans notre sujet. Donc, Jacques, chapitre 2, les versets 1 à 13. Je vais lire dans la version sommaire. Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez, en effet, qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui, vous lui dites, « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place. » Tandis que vous dites au pauvre, « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre, ou même à mes pieds. » Ne faites-vous pas des différences parmi vous? Et ne portez-vous pas des jugements fondés sur des mauvaises raisons? Au verset 5, écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres, mais la compassion triomphe du jugement. Ça, c'est la parole de Dieu et on va prier. Père Céleste, quelle grâce ce matin on a de pouvoir être rassemblés. Quelle grâce on a d'être rassemblés, Seigneur, dans notre province, où ce qu'on a cette liberté-là. On a cette liberté d'être reconnus en tant qu'Église, Seigneur, et de pouvoir partager notre foi d'une manière très directe. De pas avoir, Seigneur, à se demander qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire. Quelle grâce on a de pouvoir avoir des copies de cette parole-là avec nous, Seigneur, qu'on puisse la creuser et que ce matin, Seigneur, qu'on puisse tous être témoins de qu'est-ce que cette belle parole peut transformer dans chacune de nos vies. Amen. Donc, les trois points qu'on va voir au travers du texte, c'est une foi authentique va déverser le même amour que Dieu a pour les gens, peu importe leur condition. Que ça soit une condition matérielle, que ça soit une condition sociale ou que ça soit peu importe la condition. On va voir qu'une foi authentique donne la place à Dieu de nous rappeler notre identité en Christ de différentes manières et surtout par nos frères et nos sœurs qui nous entourent. Et dernièrement, on va voir dans la dernière partie du texte, c'est une foi authentique va chercher à plaire pleinement à Dieu. Et on voit ici que Jacques parle beaucoup de favoritisme. Et si vous avez pris le temps, si vous avez déjà pris le temps de lire Jacques 1, Jacques entre et parle et encourage ses frères et sœurs qui sont des nouveaux croyants, mais qui sont des Juifs, qui se sont convertis. Et c'est vraiment une exhortation que Jacques veut emmener à ses frères et sœurs ici. Et on peut juste, vite fait, dans Jacques 1, au verset 12 et 13, pour se remettre un petit peu en contexte, Jacques est en train de travailler. « Heureux l'homme, au verset 12, qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Jacques avait déjà adressé un point sur la tentation de cette lutte-là entre Dieu et notre volonté. Et il termine le chapitre 1 au verset 25 où ce qu'il adresse à la personne, « Si vous lui restez fidèlement attaché. » Et c'est là-dessus qu'on veut parler aujourd'hui. Est-ce qu'on est attaché pleinement à notre Dieu? Et j'aime Jacques parce que Jacques, c'est quelqu'un qui est pratico-pratique dans les épîtres. Jacques, c'est quelqu'un qui avait à cœur les Juifs. Il se promenait dans les synagogues. Il voulait annoncer l'Évangile, mais d'une manière où il se mêlait avec cette foule-là. Il rejetait pas les Juifs. Et honnêtement, on voit très clairement que le favoritisme dont Jacques parle, c'était quelque chose qui était présent dans cette assemblée-là. C'était quelque chose qui était très présent dans la vie et la culture juive. On peut le lire au travers des épîtres. Les Juifs avaient une tendance à créer un petit peu de snobisme puis à créer des classes entre eux et les personnes de l'extérieur, entre les Juifs, entre les chrétiens. Mais on n'est pas à l'abri de ça, frères et sœurs. Du favoritisme, on est tous coupables d'une certaine manière dans nos vies. Puis ultimement, c'est quoi du favoritisme? Ça démontre notre cœur. Ça démontre notre orgueil. Et comme je le dis, mais si quelqu'un ici est capable de dire « je suis pas coupable de favoritisme », je vais aller prendre des conseils. Parce qu'honnêtement, dans tout ce qu'on fait, notre cœur va être tiré entre le « moi » et qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est on va lire les versets, on va les décortiquer ensemble et on va voir les vérités bibliques que Dieu a pour nous ce matin. Donc, au verset 1, « Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Et comme je l'ai dit, en s'adressant à mes frères et sœurs, on peut voir clairement que Jacques veut faire une exhortation à des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et quand il dit... Jacques est en train, gardez-vous de toute forme de favoritisme, il est en train d'établir un petit peu sa thèse, on pourrait, sur quel sujet il va s'adresser à l'Assemblée. Et quand il parlait incompatible, tout le monde ici, je pense, comprend le mot incompatible, mais j'essayais quand même de trouver une image. Et grâce à des casse-têtes pour enfants, c'est l'avantage d'avoir des enfants à cette heure, c'est que j'ai des jouets et j'ai beaucoup d'illustrations qui sont plus faciles qu'avant. On voit la compatibilité avec un casse-tête à deux morceaux. C'est pas le casse-tête le plus compliqué du monde à faire, mais faut commencer à quelque part. Donc, on voit ici, c'est un singe et c'est deux morceaux. OK? On voit qu'il y a une compatibilité, ça rentre dans un et ça forme un tout. Si je pourrais prendre le zèbre, qui est le casse-tête à deuxième niveau, à quatre morceaux, et j'essaie de mettre le zèbre ici, quand même que je mettais le zèbre à terre et je modifiais le zèbre et que je coupais le zèbre, si je réussis à mettre le zèbre ici, est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent qui se passe? Absolument pas. C'est ça la compatibilité. C'est compatible, mais il y a une cohérence qui est créée en arrière de ça. On peut pas faire fitter, je trouve pas le terme en français, mais on peut pas faire fitter les choses selon nos normes à nous. Et c'est vraiment sur ce point-là que Jacques frappe. On peut pas faire adonner les choses selon nos normes à nous. Ultimement, c'est pas nous qui a créé le dessin. Dieu a créé le dessin avec une optique de cohérence aussi. Et l'idée de prendre soin des gens, de pas faire du favoritisme, il faut comprendre, les Juifs étaient attachés à la parole de Dieu et à l'Ancien Testament. Et Jacques va continuellement utiliser des images. Et c'est pas nouveau, cette optique-là de Dieu, de pas faire de favoritisme. On peut voir dans Deutéronome, chapitre 1, au verset 17, « Vous n'aurez point garde à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, que je l'entende. » Dès Deutéronome, on voit qu'une idée de « on fait pas des classes distinctes, là. On fait attention à ça. » Parfait. Et ça, c'est un petit peu l'introduction du chapitre. Et on peut voir notre première thématique, si on peut, c'est qu'une voix authentique déverse le même amour que Dieu a pour les gens, peu importe leur condition. Et dans cette section ici, Jacques veut bien illustrer son point. Faut savoir une chose importante, une chose qui était honorable pour les Juifs, c'est de prendre soin des pauvres. C'était quelque chose qui faisait partie de leur culture. De prendre soin des pauvres était très important pour les Juifs. Et c'est pour ça que quand on comprend ça, on voit que le texte commence à avoir plus d'ampleur parce que Jacques, il va piquer sur des choses qui affectent vraiment les Juifs dans leur culture. Jacques va en reparler plus tard. Et c'est pour ça que ça prend plus d'exemples. L'exemple prend beaucoup plus de sens pour des Juifs qui vivaient sous cette loi-là, qui se sont convertis. Et là, ils voient les deux côtés de la médaille. Parce qu'honnêtement, dans les synagogues, une chose qui se passait, malheureusement, c'est il y avait des traitements de faveur. Les personnes plus riches avaient des places plus respectées. Il y avait des sections qui avaient été créées dans les synagogues. Et vu que Jacques traînait dans les synagogues, connaissait, il adressait ces choses-là envers des nouveaux croyants qui viennent d'une culture juive. Au verset 2 et 3, « Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux portant une bague en or entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. » Haillons, c'est juste des vêtements tout croche, c'est pas beau. Au verset 3, « Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous empressez autour de lui. » Imaginez, il y a quelqu'un là qui est bien habillé, qui rentre ici, il y a une quinzaine de personnes qui vont l'accueillir, puis là, il l'emmène en avant, « Viens à la place, c'est la belle place pour toi, viens-t'en mon ami, on est content de te voir. » Tandis que vous dites aux pauvres, « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre à mes pieds. » Il y a quelqu'un qui rentre, qui est plus pauvre, qui a pas le même impact. Puis là, le monde, vous le voyez, tu comme, ben, tu peux t'asseoir dans le fond, il reste une place. Il reste pas de place ici, ben, tu peux tenir à côté de moi, tiens-toi dans ce coin-là. Ou viens t'asseoir à mes pieds. Parce que ça, c'est honorable, hein, s'asseoir aux pieds de quelqu'un. Et c'est pas vraiment honorable, c'est quelque chose d'humiliant de se faire dire, assis-toi à mes pieds. J'aimerais quand même vous proposer, des fois, en tant qu'être humain, on a une vision très horizontale des choses. Tandis qu'on devrait avoir une vision verticale. Je vous explique un peu, Dieu, dans quel axe se trouve-t-il? Horizontal ou vertical? Ben, les deux, oui, mais... Merci, Guillaume. Mais habituellement, on va comprendre que c'est un axe vertical, parce que Dieu est au ciel. Puis l'idée en arrière de ça, c'est est-ce qu'on a un désir continuellement dans nos vies de plaire à Dieu, de chercher la face de Dieu dans tout qu'est-ce qu'on fait? Où on a une vision horizontale pour dire, ben la vie à JF, c'est elle que je fais, puis mes intérêts personnels, c'est ça qui importe le plus. Est-ce qu'on a une optique verticale dans notre satisfaction? Est-ce que vous savez que vous pouvez glorifier Dieu avec votre auto, avec votre maison, avec votre argent, avec votre temps? Est-ce qu'on a une vision qui cherche à plaire à Dieu dans toutes ces choses-là, qui inclut le favoritisme? Parce que si je regarde les deux personnes, oui, il y a une distinction matérielle entre les deux, mais ultimement, pour Dieu, on l'a lu tout à l'heure, il n'y a pas de distinction entre les deux. C'est une vision qui est égoïste de voir ces personnes-là différentes. Et honnêtement, si vous connaissez le moindrement les ministères au Québec, c'est pas les ministères qui ont le plus d'argent non plus, puis il y a toujours besoin de plus. Fait qu'honnêtement, de voir quelqu'un de riche rentrer qui a à cœur, mais c'est alléchant un petit peu. Pour dire, OK, mais on veut l'accueillir, puis ça peut être pour des bonnes causes, parce que quelqu'un avec de l'argent peut aider pour les pauvres, peut aider pour loger des immigrants, peut aider pour des causes extrêmement honorables. Mais en arrière de ça, il peut toujours avoir du favoritisme envers les personnes riches et envers les personnes pauvres. Et là, Jacques adresse le texte d'une manière où ce que c'est financier et des apparences. Mais on peut être riche et ou pauvre dans nos émotions, dans notre situation de vie, dans notre vie spirituelle. Et c'est important, on veut voir tous ces aspects-là ensemble. Et honnêtement, pour l'avoir vu, malheureusement, et l'avoir fait, on peut faire le contraire. Parce que souvent, on va voir le favoritisme, c'est le pauvre qui écope. Mais combien de fois dans une assemblée, dans une église, dans un ministère, on va prendre toutes nos énergies pour s'occuper des pauvres spirituellement, émotionnellement. Puis vu que ça va bien pour ceux qui sont en santé, mais on prend moins de temps. Malheureusement, on peut tomber dans le panneau de faire du favoritisme envers ces personnes-là. Et Jacques nous prévient de faire attention à ça. C'est apprécié. Merci, mon cher. Ni un ni l'autre n'est acceptable aux yeux de Dieu. Vertical, et on est égal. Au verset 4, « Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur des mauvaises raisons. » Ici, c'est clair, sur des mauvaises raisons, mais les raisons, c'est sur l'apparence puis le statut social. Il faut que notre regard absolument reflète le regard que Christ a pour les autres. Jacques va l'adresser un petit peu plus tard. Et on peut voir que dans Éphésiens 6:9, ça nous dit « Quant à vous, maître, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et n'agit jamais par favoritisme. » Ça, c'est envers les maîtres. Faites attention. La parole de Dieu est claire. Ne faites pas de favoritisme. C'est pas juste Jacques qui l'adresse. On est maintenant dans Éphésiens, puis on l'a vu dans Deutéronome. Il y a quelque chose qui se passe avec la parole de Dieu pour le favoritisme. Mais qu'est-ce que cette question-là, rhétorique un petit peu, parce que ne faites-vous pas des jugements parmi vous, ne portez-vous pas des jugements fondés sur des mauvaises raisons? Je pense pas que Jacques s'attendait à une réponse. Un petit peu à faire réfléchir. Mais sur quelle piste d'introspection, nous, ça peut nous emmener? J'aimerais qu'on puisse voir ensemble la chose la plus importante, c'est à quoi ressemble l'amour de Dieu pour nous. Parce que si on ne connaît pas l'amour de Dieu comme dans Éphésiens, on peut pas aimer comme Dieu aime. Donc, c'est quoi l'amour de Dieu? Dans Romains 5, au verset 8, « Mais voici comment Dieu nous montre son amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Encore des pécheurs. C'est-tu pas merveilleux, ça? Il n'a pas dit « Alors que nous étions sur une bonne voie ». Non, alors qu'on était de la pourriture, des déchets, Dieu a comme fait « Non, vous êtes pécheurs, mais je vais vous aimer puis je vais agir. » Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3:16, dans version Semeur, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient une vie éternelle. » On va lire un texte un petit peu plus long dans Jean 15, les versets 9 à 17. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé maintenant, donc maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, que moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est ça la relation que Dieu a pour nous. Et il termine au verset 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. C'est mon amour envers vous. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. C'est un plus long passage, mais de comprendre l'ampleur de l'amour de Dieu dans son entièreté, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Dans Jean au verset chapitre 4, 8 à 10, « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il nous a envoyé son Fils, son unique dans le monde, pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. » Quelle grâce, quelle joie d'avoir cet amour-là. Et dans Psaume 86 au verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant est disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère et riche en amour fidèle. Quelle beauté! Comment ne pas aimer les autres comme Dieu nous aime quand on est face à cette réalité-là de l'amour de Dieu pour nous, alors qu'on a été gracié de cet amour-là? Comment est-ce possible pour nous de faire du favoritisme quand on se fait mettre le miroir en plein visage? Et on va le voir tout à l'heure, mais au verset 13, il va adresser que c'est Dieu seul qui va juger. Quand on traite différemment les riches, les pauvres, on exerce malheureusement une discrimination qui est pécheresse dans nos vies, dans notre assemblée. Peu importe où ce qu'on est, si on commence à faire ça, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et au lieu d'être des hôtes heureux, excités de recevoir des âmes dans notre entourage, que ce soit à l'assemblée, à la maison, dans notre, peu importe, des frères ou des serviteurs de nos invités, on s'auto-proclame juge parce que je suis en train de déterminer sa valeur à cette personne-là. Et c'est pour ça que le verset 13 est important, parce que seul Dieu va juger. C'est pas moi qui va juger. Pourquoi? Parce que cette place-là, frères et sœurs, elle est réservée à Dieu. Seul Dieu peut combler les cœurs. Seul Dieu peut voir le cœur d'une personne. Est-ce que je déverse le même amour que Dieu a eu pour moi envers les gens qui m'entourent? C'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qu'on doit se poser quotidiennement. Et les opportunités qui peuvent nous s'échapper. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu est gracieux. Dieu va se souvenir, Dieu va venir à notre secours. On va aller dans la deuxième section. Une foi authentique va donner la place à Dieu de nous rappeler notre vraie identité en Christ de différentes manières. Et ça inclut nos frères et nos sœurs qui peuvent venir nous frotter un petit peu de temps en temps. Au verset 5, écoutez mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Comme je l'ai dit tantôt, pour les Juifs, c'était important de prendre soin des pauvres et c'était honorable. Et je trouve ça intéressant parce que Jacques ici est en train d'emmener le côté honorable juif, il est en train aussi d'emmener le côté qu'il faut obéir à la vraie foi authentique de Dieu. Il est en train de frapper les deux clous en même temps pour que son auditoire comprenne vraiment l'ampleur de ce que Christ veut. L'exemple de Jésus même, de prendre soin des gens défavorisés, les gens qui sont exclus de la société, c'est un thème récurrent dans la vie sur la terre de notre Sauveur. Et c'est important de prendre ça en considération. Au verset 6, « Et vous, vous méprisez le pauvre? Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. » Et vous, vous méprisez le pauvre? C'est une question assez solide. On explore tout ça, on est en train de dire, il faut prendre soin des pauvres. Vous dites, il faut prendre soin des pauvres parce que ça fait partie de votre culture. Puis vous, vous le méprisez. Quelle hypocrisie. Puis là, Jacques est en train de mettre le doigt, tu sais, dans la plaie où ce que ça va vraiment faire mal en confrontant leur attitude envers les pauvres. Parce que, comme je l'ai dit, ça va à l'encontre de leur culture juive, comme étant quelque chose d'honorable, et ça va contre leur foi en Jésus-Christ qui les amène pauvres, puis c'est ainsi à les aimer comme Dieu les a aimés. Puis après ça, il dit, « Depuis, ils vous oppriment. » Je vais vous lire plus loin dans Jacques, au verset 6. Jacques 5, 6, ça nous dit, vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. Ça, c'est ce que les méchants ont fait envers l'Église. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. Et là, Jacques est en train de dire, vous êtes en train de vous associer à cette gang-là. Parce qu'on va le voir au verset 7, ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais honnêtement, ça porte à croire que les riches ou les gens plus en moyens se moquaient de Jésus, se moquaient de ses disciples. Et qu'est-ce que le favoritisme que l'Assemblée est en train de faire, ça donnait raison à ces moqueries-là, parce que il n'était pas en train d'honorer Dieu au travers de ça. Il était en train d'aller à l'encontre de Dieu. Est-ce qu'on désire sincèrement participer, malgré nos intentions, aux moqueries envers notre Père? Est-ce qu'on veut vraiment participer à ces choses-là quand on commence vraiment à creuser? Le beau nom qu'on a invoqué sur nous, ils ont été baptisés, ils se sont fait donner un nouveau nom, une nouvelle identité en Christ. Et c'est important de se la faire rappeler. Et on va lire juste quelques passages. Le beau nom qu'on a reçu en Jésus, on peut passer à la prochaine slide, oui. Dans Jacques, riche dans la foi, dans 1 Jean, enfant de Dieu, dans 1 Corinthiens, co-ouvrier avec Dieu, dans Matthieu 5, une lumière dans ce monde. Dans Romains 8, nous sommes aimés. Dans Colossiens 2, nous sommes pleinement comblés. Dans Actes 13, nous sommes pardonnés. Dans Galates, nous sommes libres. Dans Romains, nous sommes justifiés. Dans 2 Corinthiens, nous sommes une nouvelle créature. C'est tous des noms qui sont proférés en tant qu'enfant de Dieu. Notre identité se trouve en Christ seulement, mes chers amis. Pas ailleurs, seulement en Christ. Même si toutes ces parties de notre identité sont incroyables, puis je veux faire attention, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas une tape dans le dos pour dire « allez-y, vous êtes capable ». C'est un rappel, c'est pas de la motivation là. C'est un rappel à dire « ok, mais mon identité est vraiment en Christ, dans celui qui a tout donné pour moi ». Il faut réaliser qu'on a été appelé à partager cet amour-là que nous avons reçu. Le plus grand des cadeaux, il n'est pas à rester pour nous, puis on le cache dans un tiroir. Dans la société de médias sociaux, si quelqu'un a un beau cadeau, c'est sûr et certain qu'il se fait poster à quelque part. Le monde le sait. Pourquoi c'est si difficile pour moi de prendre le beau cadeau de Dieu puis pas de l'exposer au monde? On devrait réaliser au travers de ça que c'est seulement par la grâce de Dieu, c'est seulement par la grâce de Dieu que notre identité se trouve en lui. Et par moments, frères et sœurs, on a besoin d'être redirigés par Dieu puis par son esprit. Des fois, il va manquer d'air dans le pneu, puis on va avoir une tendance à la droite, on va avoir une tendance à aller à gauche, puis on a besoin d'être redressé par Dieu. Il faut être humble pour recevoir avec douceur ce rappel. Puis de se faire reprendre, qui ici aime se faire reprendre? C'est bien. Moi je vais vous partager un peu, mais je commence à lever la main à cette question-là. Ça dépend du contexte, je vous en parle. Mais ça peut être difficile de se faire reprendre, mais ô combien nécessaire pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Je parlais d'authenticité. Dans les derniers mois, avant Ézéchiel, j'ai vécu une période assez solide en épuisement. Quand je suis parti pour la naissance en congé de paternité, j'étais en épuisement. Et pour moi, c'est la première fois de ma vie que je réalise beaucoup de choses dans ma vie. J'ai compris la grâce d'avoir des frères et sœurs qui m'ont confronté d'un amour sain. J'ai compris la grâce de Dieu de me faire rappeler les noms que Dieu a proférés pour mon identité. C'est un processus qui est encore sensible. C'est un processus qui a débuté, un plus long processus que je m'attendais. Je pense que pour le restant de mes jours, ça a changé la manière que je vis ma foi. Et avec humilité, et quasiment, pas avec honte, là, mais quasiment, je peux dire qu'à 39 ans, puis j'ai grandi dans l'Église, ça veut rien dire, là. Mais pour la première fois de ma vie, je peux dire que j'ai vraiment vécu l'Évangile de Christ. Pleinement. Puis ça fait vraiment du bien. Puis c'est pour ça que je suis capable de vous dire aujourd'hui que si je suis capable de lever la main tranquillement, c'est parce que j'ai vécu quelque chose, ça a été la pire expérience de ma vie en passant, mais la plus belle expérience de ma vie par la suite. Et c'est un cheminement, c'est un processus. Je remercie Dieu de m'avoir donné une épouse si gracieuse. T'sais, on est des parents un petit peu plus vieux, fait que veut pas, l'épuisement, est, la fatigue est plus présente. On n'a plus la fougue qu'on avait avant. Mais de se faire ramasser par Dieu, quelle joie. Quelle bénédiction. Ça n'a pas de sens, mais avec Dieu, ben ça confond les fous. Dieu utilise tous les moyens qu'il veut. Ça peut inclure nos expériences, ça peut inclure vos douleurs, ça peut inclure vos amis, ça peut inclure vos parents, ça peut inclure nos enfants, les collègues, les frères et sœurs dans l'Église. Je nous encourage à ne pas voir personne au-dessus de personne. Peu importe son âge, peu importe sa maturité spirituelle, à chaque année, une de mes joies, c'est que je peux grandir et apprendre d'eux autres. Puis là, je suis rendu à un point que j'ai pas le choix de dire, j'ai le double et plus de leur âge. Mais j'ai à apprendre. Il y a quelque chose de beau dans une fougue de jeunesse. Il y a quelque chose de beau dans une vie où ce qu'on est rendu, moi, dans ma saison de vie. Il y a quelque chose de beau dans une saison de vie des couples plus âgés. Même niveau, on a tout à apprendre à vivre cette communauté-là, à partager ensemble. Pourquoi? Pour se rappeler notre identité en Christ égale. Faut pas être aveugle à nos faiblesses et ce que le monde fait. Dans Romains 12, 2, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Est-ce qu'on est renouvelé? Est-ce qu'on prend le temps de demander à Dieu de renouveler notre intelligence? De renouveler notre cœur quotidiennement. Parce que quotidiennement, on va se planter. On va en manquer des shots. On a trouvé une nouvelle créature, une nouvelle nature en Christ, mais notre chair va continuer de lutter jusqu'à son retour. La beauté de la communauté que Dieu nous donne ici. Est-ce que je suis ouvert à être pris par Dieu? Pourquoi? Parce que je suis charnel puis je suis oublieux. Est-ce que je vais laisser l'orgueil prendre le dessus dans ma vie? Le dernier bloc qu'on va voir, c'est une foi authentique cherche à plaire pleinement à Dieu, totalement à Dieu. Au verset 8, si au contraire vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Quand il dit au contraire de mépriser le pauvre, c'était pour aimer le pauvre. Mais il veut dire, dans Matthieu 22, il est en train de référer, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 9, mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. Alors jusqu'ici, Jacques a pu bien démontrer que de mépriser un pauvre allait à l'encontre de la volonté de Dieu, qui est un péché. Et vu que les jeunes convertis étaient en majorité des Juifs, Jacques encore fait appel à leur connaissance de la loi, leur bonne connaissance de la loi de l'Ancien Testament, et du même coup les encourageait à voir les commandements de l'Ancien Testament à la lumière de Matthieu 22, où ce que la loi qu'ils connaissent, mais de la transférer à « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Verset 10, « En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. » Et je trouve ça intéressant parce qu'il est en train de décrire que la loi, mais c'est une loi qui est formée de plusieurs choses. La loi de Dieu, elle est cohérente, formée de plusieurs choses. Et l'exemple qu'il va utiliser, tu ne commettras pas d'adultère si tu commets pas de meurtre. Fait que si tu fais de l'adultère, ben tu commets. Si tu fais pas de l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis à la loi. Mais la loi, c'est un tout cohérent. Et si je suis pour enlever une partie de la loi, le tout n'est pas cohérent. Je désobéis à la loi pleinement. L'exemple du verset 11, ça semble simple. Et c'est extrême de la part de Jacques, mais il utilise vraiment des lois que les Juifs connaissaient. Ils pouvaient s'associer à ces lois-là. Ils connaissaient la loi, ben, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit, que les lois, ça vient d'un seul législateur qui est Dieu, avec une volonté qui est parfaite, avec une volonté qui est intègre. Et j'aimerais prendre le temps de juste réfléchir très rapidement à une image d'obéissance sélective. Parce que dans la vie, on est sélectif des fois. Fait qu'on peut, j'explique rapidement, dans nos métiers de tous les jours, on peut suivre des recommandations qui nous sont données. Okay? Tout le monde ici qui a un travail, mais on se fait donner des recommandations par nos supérieurs, on a quelque chose à accomplir. On a tout un choix de dire oui ou non. Vous pouvez me dire non, mais en bout de ligne, si votre vie est pas en danger, vous avez le droit de quitter cet emploi-là puis vous en trouver un autre. Fait que ça, c'est des recommandations. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est remplie d'exemples de guerre, de l'armée. Pensez-vous que quelqu'un sur le champ de bataille a le choix de dire oui ou non? Parce que s'il dit oui ou non, il met la vie de lui en danger, il met sa vie en danger, il peut mettre la vie des autres en danger. J'aime que Paul est rempli d'exemples d'armée parce qu'il comprenait l'urgence d'obéir à Dieu pleinement, de pas juste prendre pour acquis, je vais obéir à qu'est-ce qui me tente aujourd'hui, puis demain je vais obéir à ça. Non, si on commence à oublier qu'on est en guerre spirituelle, on va l'échapper. On va prendre la loi, puis on va faire aujourd'hui je prends elle, aujourd'hui je prends elle. La loi c'est un tout. On est en guerre spirituelle. Est-ce que je vois ma vie d'enfant de Dieu comme quelqu'un qui veut suivre les recommandations de Dieu ou qui veut obéir pleinement à Dieu? C'est un tout. Est-ce que je me donne entièrement à Dieu? Est-ce que je cherche à plaire pleinement à Dieu? Est-ce que je demande à Dieu de sonder mon cœur comme David l'a fait au psaume 139? Est-ce que ça fait partie de votre vie de prière? Sonde-moi, oh Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Parlez et agissez, au verset 12, parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Mes frères et sœurs, la foi authentique va se démontrer dans nos paroles, dans nos actions et dans la manière qu'on agit autour. Et on peut être jugé, ça fait bizarre un peu de dire, parler et agissez comme des personnes appelées à être jugées. Appelées à être jugées, c'est pas bon d'habitude. Mais à être jugé par quoi? Par la loi qui donne la liberté. Je vais inviter la louange à s'avancer pendant que je conclue. Au verset 13, Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres, mais la compassion triomphe du jugement. Mais en d'autres mots, c'est celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ. Il revient encore avec la compassion pour les gens, mais surtout Jacques témoigne de quoi? Jacques peut dire ça parce que Jacques a vécu cette liberté-là au travers de cette loi-là. Il est en train de partager son cœur, sa libération, et les Juifs ont connu cette libération-là parce qu'ils étaient pris avec les œuvres, et maintenant, grâce à la foi en Jésus-Christ, c'est pas seulement les œuvres. Les œuvres et la foi, et Jacques va l'adresser dans la deuxième partie du chapitre. Je vais arrêter là. Mes frères et sœurs, je veux juste nous lancer le défi qu'on est tous responsables ensemble de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce monde qui est pauvre en esprit et que Dieu a déversé son amour pour chacun de nous et pour le monde qui nous entoure. Et je vous encourage à réfléchir et à demander à Dieu de nous aider de vivre une foi pleinement authentique qui pointe à la croix de Jésus-Christ. Pas autre chose, pas notre ego, seulement à la croix de Jésus-Christ. Je vais prier. Père Céleste, quelle joie d'avoir ta parole pour nous éclairer. Quelle joie d'avoir ton esprit, Seigneur, qui est là pour sonder les cœurs, qui est là pour nous diriger. Que tu puisses être avec chacun de nous, Seigneur, à pas vivre cette foi authentique-là, Seigneur, comme étant le plus grand des fardeaux, mais à vouloir chercher la crainte sainte de l'Éternel, de vouloir te plaire, Seigneur, mais pour pouvoir faire avancer ton royaume, de se rappeler notre identité pleinement en Christ au travers des noms que tu nous as donnés, au travers des exemples d'amour que tu as décrits dans ta parole, Seigneur. Merci d'être un Dieu qui aime sans condition. Merci d'être un Dieu qui est là pour nous. si on se tourne vers toi. Donc, que tu puisses venir à notre aide, Seigneur, mais que tu puisses continuellement nous rappeler ta grâce afin de ne pas vivre sur un joug qui n'est pas vivable, Seigneur. C'est en ton nom qu'on te remercie. Amen.